le thème de mon intervention sur le rôle du théâtre de marionnettes tchèques dans le régime totalitaire est très étroitement lié au rôle de la culture tchèque dans la situation qu'elle a jouée dans les pays tchèques et moraves ces derniers siècles. Mais pour que je ne m'éloigne pas trop de mon thème, il faut dire que le théâtre de marionnettes tchèques s'est trouvé au moins ces 200 dernières années dans une situation où il a dû s'accommoder non seulement avec la censure obligatoire, mais également avec son rôle de maintien de l'originalité de la nation, de sa culture et avant tout de sa langue. Durant ces années, il a appris avec habileté à balancer entre l'accomplissement de ses obligatoires officiels autorisés par l'État et l'accord non écrit ou la conspiration avec son public s'agissant du dépassement de ses limites au niveau politique. Ces manifestations pouvaient être incluses sous la notion de révolte de la nation soumise, plus tard même deux fois occupée. Le théâtre de marionnettes, dont le signe caractéristique est le métaphorisme, l'allégorisme ou encore, pour simplifier, la stylisation de l'activité humaine pouvant être exprimée également par anthropomorphisation des thèmes les plus divers, lui a fourni pour cela nombre d'opportunités. Laissons de côté les pièces de la Renaissance nationale et leur représentation, qui avait comme tâche de renforcer la confiance nationale, voire même le spectacle très politique de Joseph Skupa à Plzeň dans l'année révolutionnaire 1918, où son cache-paret de Plzeň littéralement aida à faire tomber l'Autriche. Le théâtre de marionnettes joue à son rôle important également dans les spectacles de marionnettes allégoriques pendant l'occupation allemande ou sous des titres insignifiants, les gerbes, les paquerettes, se cachait un collage de pièces et de textes d'auteurs déjà interdits à l'époque, Karel Čapek et d'autres. Une autre situation survient après 1945 où, avec un nouveau type de marionnette, marionnette à tige, fut également adopté dans une grande majorité les répertoires en provenance du théâtre Obrazov de Moscou. Le théâtre des marionnettes qui, s'enorgueillissait de sa réputation exceptionnelle, dont les marionnettes de la période dite de la Première République, 1918-1938, avait avant tout été à l'origine, renforça sa position grâce à cette orientation pro-soviétique. Il faut dire qu'elle n'était pas isolée. Les théâtres classiques s'étant appuyés sur le modèle soviétique dans la méthode de travail et le répertoire, la même situation existait aussi dans la littérature d'ailleurs. L'appel à l'importance du théâtre pour les enfants, qui était particulièrement soutenu par les autorités en liaison avec la nouvelle politique culturelle, y joua un rôle non négligeable. Le théâtre de marionnettes se retrouvera dans cette consciencieuse propagande entourée de faveurs et en perfectionnant sa pratique des marionnettes et, bientôt, en recherchant des auteurs tchèques qui pourraient créer un répertoire pour ce style du théâtre illusoire, commença à se créer non seulement une école de marionnettes dite « école tchèque », mais dans le même temps, fit mener avec succès son combat pour la reconnaissance parmi les autres styles théâtraux. Mais à la fin des années 60, en opposition avec l'orientation officielle représentée par le style du théâtre des marionnettes centrales de Prague, apparaît un vaste mouvement appelé de petites scènes de studio, incluant avec tout la technique du théâtre noir, qui bientôt ensorcellera et conquérera le monde par sa capacité de communication non textuelle. Ce théâtre, basant non seulement sur la traduction des cabarets tchèques d'avant-garde et l'avant-garde théâtrale, mais aussi sur les premiers contacts avec les cabarets, chansons et procédés théâtraux arrivant chez nous, certes avec mesure, mais arrivant tout de même, de l'ouest de nos frontières. La nouvelle génération des marionnettistes qui furent les premières élèves de la chaire de théâtre des marionnettes de l'école d'art dramatique Amour revient aussi aux deux sources d'inspiration caractéristiques de l'art tchèque des marionnettes, au jeu et au style des marionnettes et des marionnettistes ambulants tchèques. Ici existe un retour dans les créations de Jan Schwankmajer, mais surtout dans le répertoire du théâtre Drac dans les années 60, et une désaffection du théâtre de marionnettes illusoire. Théâtre noir étant le théâtre d'objets faisant apparaître la poésie du quotidien. Dans les mises en scène avec l'intégration de la terre et d'une marionnette dans le même espace de jeu. C'est surtout le front culturel qui réagit pendant l'époque de relative libéralisation du régime totalitaire à la fin des années 60. L'une des preuves en est encore aujourd'hui l'excellent film de Jiří Trnka « La main » 1965, qui apporta à son créateur une énorme reconnaissance en Tchécoslovaquie mais aussi à l'étranger. Et c'est justement pourquoi ce film fut rapidement mis sous l'été noir. Il exprime un canevas, même de la vie comédie ginolesque, au nom identique de l'auteur français Edmond Duranty. Alors j'ai préparé un tout petit morceau de ce film, que vous connaissez probablement. C'est vraiment fait avec le guignol ancien, c'est sa sœur de pièce de Duranty, mais ça exprime absolument les sentiments des artistes à l'époque, dans les années 60. Si vous connaissez ce film qui finit par la glorification de cet artiste qui est mort à la fin parce qu'il n'a pas voulu remplir toujours ce que la main le demandait. C'est de l'original, la pièce de Duranty est très bonne et je pense que ça vaut la peine de la jouer encore, mais le film j'aime beaucoup. C'est Trnka a filmé ce film quelques années qu'il a reçu le titre artiste national.
C'est quelle pièce de guignol
La main, ça s'appelle La main de Duranty.
Oui.
Bon, l'invasion russe en 1968 signifia un tournant non seulement dans le développement démocratique dans notre pays, la Tchécoslovaquie dans ce temps-là, mais touche à tous les autres domaines, de l'économie en passant par la politique jusqu'à la culture. Le désespoir et l'impuissance qui l'emparèrent de la plupart d'entre nous trouvèrent à cette époque une expression convaincante, par exemple dans la mise en scène de la mort de Tintagiles au théâtre de Bohème Centrale de Clavenon, présenté en 1969 lors du dernier festival international marionnette à Prague, lié à un congrès de l'Union internationale NIMA. La grande porte en fer sur laquelle frappe désespérément Ygraine, voulant libérer son petit frère naïf Tintagiles, emprisonné derrière elle, est un témoignage fort. L'impuissance de la fragile marionnette et de cette petite main contre le fer froid, l'empêchant de trouver le chemin de la liberté, était une image si expressive que la délégation soviétique se leva après cette scène et quitta démonstrativement la salle. Dans les années 70, eut lieu la normalisation, ce que signifiait l'acceptation graduelle de l'état de fait, des années insignifiantes mises en scène, émoussées, inconsistantes, pour la plupart provenant de l'URSS, de Bulgarie et de Pologne, qui signifia dans l'évolution de la culture tchèque un retour de plusieurs décennies en arrière. Après le premier choc, et bientôt sans espoir de changement, se produisit à nouveau cette conspiration rare, cette alliance informelle entre la scène et les tribunes. Puisque la réaction du public était soigneusement enregistrée par un contrôle et que les rapports étaient ensuite la raison de sanctions dans le répertoire, dans des modifications de textes, dans les spectacles concrets, c'est sous cette pression lors des représentations que se produisait une manifestation caractéristique appelée non-réaction. Ce qui aurait dû normalement provoquer du rire, de l'émerveillement ou de l'applaudissement, était remplacé par un silence de mort qu'il était impossible d'indiquer dans le rapport. Le symbole sans doute le pire de cette période fut l'autocensure. J'ai déjà parlé du fait que les créateurs tchèques et le public étaient habitués à un jeu convenu à l'avance, mais cette fois, de peur de sa propre existence, avec l'existence de l'œuvre créée, nous avons commencé seuls à corriger nos idées qui auraient pu signifier les dangers indiqués et une répression. Nous nous sommes aussi habitués à un travail de comploter avec les auteurs interdits, même dans les théâtres des marionnettes s'est trouvée toute une série de textes où les noms de l'auteur furent remplacés par la désignation convenue collective. Parfois, des dramaturges ou d'autres auteurs couvraient les auteurs indésirables. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas me mettre de cette situation à laquelle nous nous sommes lentement habitués. Les scènes officielles des théâtres étaient sous le contrôle étroit avant tout du ministère de la Culture. Les jeunes scènes de studio qui pouvaient se prévaloir de la création de la jeune génération et son témoignage, qui était dans une certaine mesure, ne serait ce qu'était donnée la présentation vis-à-vis à l'étranger, désirable avant une position un peu meilleure. C'est par une sorte de miracle que Peter Schumann, avec son témoignage politique, exprimant toutefois étroitement son sentiment anti-américain à cette époque, arriva à s'y produire à leur grade, le Levin Theatre y ayant également fait son apparition dans une semi-clandestinité. Mais c'est alors que le théâtre des marionnettes, de manière tout à fait paradoxale, vécu ces années les plus importantes. Ce furent les années culminantes de la création de Joseph Krofta, qui redéfinit l'espace pour les marionnettes et définit leur importance. Pour résumer, dans le théâtre de marionnettes qui portait toujours et encore pour les autorités la seule étiquette de théâtre pour les enfants, s'appliquaient des textes qui n'auraient pas eu la moindre chance d'être présentés dans les théâtres dramatiques. Il s'agissait de mise en scène orientée vers un spectateur adulte dont le témoignage, caché contre la lâcheté, l'adaptabilité et d'autres phénomènes, trouvait un écho exceptionnel auprès du public. L'exemple le plus frappant de cet aspect fut l'adaptation par Krofta du texte de Yevgeny Schwartz, Le Dragon, présenté sous le titre Le Chant de la Vie, 1985. Il ne s'agissait pas ici uniquement de l'histoire propre des gens qui s'étaient déjà habitués à leur soumission, mais également de la peste de la méfiance et du contre-flicage mutuel au sein des familles, où même les membres d'une famille commençaient à avoir peur les uns des autres. J'ai un autre morceau pour vous faire voir, mais c'est vraiment basé sur le texte. Je le laisserai après jouer en tchèque, mais je vous dirai de quoi s'agit-il. C'est la rencontre de fils et père, et le fils qui est vraiment le flic déjà de Dragon, vient demander son père qui brûle quelques papiers là-bas, les papiers compromettants, en le demandant, qu'est-ce que tu penses de Dragon? Je l'aime tout, à la mort. Le fils dit, mais tu nous dis la vérité? Bien sûr, je ne suis pas idiot, je te dis la vérité, je l'aime beaucoup. Et toujours en regardant là-haut, parce qu'il a l'impression que quelqu'un l'attend, que le dragon écoute. Et il y a d'autres choses. Et dis-moi, est-ce que c'est toi le flic du dragon? Tu es venu spécialement me demander qu'est-ce que j'en pense. Mais non, papa, je te demande ce que tu l'aimes. Ah oui, c'est notre petit oiseau, notre tout, notre... Dragon petit, comme nous l'aimons, comme nous l'aimons. Alors, cette scène, qui tout le monde comprenait ce qui se passe, il avait cette non-réaction.
Il y avait absolument le silence. Non, mort. Alors, je vous présenterai cette courte scène de ce chant de la vie.
C'était le témoin du fait que les mises en scène, dans lesquelles se cachait une représentation de l'immunisation vécue en commun avec celle sur l'espoir, un seul exemple entre nous, la mise en scène suggestive de Croftas et Unicom, avait pour les spectateurs un caractère purificatoire. Elles étaient cette fameuse lumière au bout du tunnel.